Vous allez bien ce matin? Bon. Avant de commencer, OK, on regarde là. Et je ne crois pas que je sois capable de donner ma prédication en 20 minutes. OK, c'est à peu près le temps qui me reste. Donc, je vous demande une faveur particulière de dépasser légèrement avant de commencer. Je vais essayer de faire mon possible, finir en le temps. Mais on a pris plus de temps. Et pour que le message se tienne un peu, il faudrait que j'aie le temps de la donner. Mais je vous le demande, est-ce que ça convient? Oui? Merci beaucoup. Un papa selon Dieu. Un papa selon Dieu, c'est un message de circonstance, la fête des pères. Bonne fête en passant à nous. OK? Je suis un père, moi aussi. Et un papa selon Dieu. Et lorsque je me suis mis à penser à mon père, je me suis mis à penser au passé, les relations qu'on avait avec mon père, il y a une phrase qui m'est revenue à l'esprit. OK, ça a l'air que c'est lui. Non, c'est lui. OK. Il y a une phrase qui m'est revenue à l'esprit. Mon père, il est plus fort que le tien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit dans votre jeunesse. Là. Mon père, il est plus fort que le tien. Puis mon père, parce que mon père, c'est un héros, hein? Mon père, c'est vraiment un héros. Peut-être que si on l'adapterait aujourd'hui, en 2018, c'est « Mon père joue au Xbox, pas le tien. » Une adaptation 2018. Bien, le mot « père »,« pater » en grec, veut dire « celui qui nourrit, celui qui pourvoit, qui est un appui ». On parle ici de son rôle dans sa famille. Un père a un rôle, a ce rôle-là, entre autres. Mais ça veut dire plus que juste emmener de la nourriture à la maison. C'est beaucoup plus que ça. Le rôle du père est un travail de leader. La femme en est un de soutien indispensable à l'accomplissement de ce leadership. La personne la plus importante dans la famille, c'est deux personnes qui n'en font qu'une. C'est l'homme qui aime sa femme et la femme qui supporte le leadership de son homme. Et on voit le principe d'une seule chair. Ils sont indissociables. Un couple qui fonctionne bien a un homme leader et une femme qui soutient ce leadership. Et c'est important, ce rôle-là. La responsabilité d'un père est très importante. C'est un rôle très valorisant, exigeant. C'est un rôle qui a un grand impact. Positif si c'est pris au sérieux et très négatif si c'est négligé. On a vu ce que notre sœur nous a parlé ce matin, le TPL qui vient de la jeunesse, des choses passées, et combien de problèmes qui ressortent de familles qui sont mal dirigées, qui sont mal... Donc, la responsabilité de père est très importante. Parce que on ne vient pas au monde papa. Okay? Lorsqu'on vient au monde, on ne vient pas au monde papa. Ce métier-là, ce job-là, ce rôle-là, on l'apprend à force d'expérience et de conseils. Il y a le père et il y a le père selon Dieu. Le Père, selon Dieu, doit rajouter à l'expérience et au conseil la prière, la connaissance de la parole et la connaissance du Dieu de la Bible. C'est indispensable. Tout à l'heure, dans la chanson, il disait, « C'est la raison que je vis pour t'adorer. » On pourrait dire, « La raison que je suis un Père, c'est pour t'adorer aussi. » Le rôle de Père va servir à l'adoration de Dieu. Excusez, je fais à l'envers. Un père qui pourvoit, qui nourrit et qui est un appui. Dans les versets que l'on va lire dans Thessaloniciens, que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a trois points qui ressortent de la responsabilité d'un père. Un père qui a compris son rôle dans la maison autant que dans l'Église. J'ai dit « dans l'Église » parce que c'est un critère que tout homme doit rechercher, Toute personne dans une assemblée doit rechercher les critères d'un ancien. C'est pas parce que c'est un ancien qu'il fait et les autres ne le font pas. Les autres ne recherchent pas ces critères-là. Chaque homme doit rechercher ces critères-là. Et un des critères d'un ancien et d'un diacre, c'est qu'il doit être un bon père, qu'il doit bien diriger sa maison. C'est dans Timothée qui nous mentionne cela. Dans les versets que l'on va lire, on voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 12, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc, trois choses que le verset ressort, son travail au verset 9, son exemple au verset 10 et son influence spirituelle au verset 11. Son travail. On voit dans notre société moderne toutes sortes de situations où la femme travaille autant que l'homme, parfois même plus. Pour moi, c'est acceptable. Je ne vois aucune problématique dans cela. Chaque décision individuelle, et c'est les personnes qui les prennent. Et je n'ai rien à dire là-dessus. C'est une décision personnelle et de couple, et c'est respectable. Mais Paul ici, il voit dans la définition de père celui qui pourvoit. Et dans beaucoup de cas, même au Québec en 2018, c'est ce que l'on rencontre. Personnellement, j'ai toujours ressenti une grande fierté à subvenir aux besoins de ma famille. Je sais que j'ai fait ce que Dieu approuve lorsque je vais à mon travail à tous les matins. Puis là, maintenant, je suis rendu à ma retraite. Mais je l'ai fait pendant nombre d'années. Et lorsque les journées étaient plus difficiles, je pouvais me rabattre sur le fait que mes enfants ont à manger, mes enfants ont ce qu'il faut. Ma femme et mes enfants ont ce qu'il faut. D'ailleurs, Proverbe 12, 27 nous dit que l'activité d'un homme, c'est un précieux trésor. L'activité d'un homme, c'est un précieux trésor. Ici, homme tient compte de l'humain. C'est une activité, c'est un précieux trésor autant pour la femme que pour l'homme, mais aujourd'hui, on parle des pères. Et malgré que le travail doit se faire, malgré qu'on doit passer énormément de temps, c'est ce que je trouvais lorsque je travaillais, je dis, il faut-tu en passer du temps à sa job pour réussir à gagner sa vie? Mais malgré tout cela, l'Évangile faisait aussi partie de sa préoccupation à Paul. Il s'occupait des besoins physiques de sa famille, de ceux autour de lui, mais il ne s'en négligeait les besoins spirituels. C'était important pour lui. J'ai une famille où le travail était la valeur. C'était important que tu travailles. Mon père, à un moment donné, il avait deux jobs, puis parfois trois. Ma mère travaillait du matin jusqu'au soir. Donc, chez nous, c'était le travail. Et c'était même au détriment de tout le reste, au détriment de bien des choses qui devaient arriver. Le travail n'était pas la seule valeur. Dieu désire plus que cela pour l'homme de Dieu. Il désire, au verset 10, « Vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » La conduite d'un père est de première importance. La présence et l'exemple d'un père façonnent le futur de ses enfants. La jeune fille va apprendre comment aimer un homme à travers l'amour paternel qu'elle a reçu. Le jeune homme va acquérir son assurance à travers une réelle relation qu'il a avec son père. Et c'est important. Lorsqu'il n'a pas cela, il y a des lacunes dans sa vie. Le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est une conduite sainte, juste et irréprochable. Au-delà de tout l'argent qu'on peut laisser à la fin de sa vie, on témoigne de Dieu par cette conduite. Nous faisons une vraie démarcation d'avec le monde, avec nos enfants. C'est une grande responsabilité attachée de père, qui est aussi un privilège. Le père et la mère aussi ont le privilège de tracer un chemin qui mène à Christ. L'âge incombe au père, c'est d'être un exemple de leadership spirituel. Messieurs, nous avons à trouver notre place comme celui qui établit l'enseignement dans la maison, comme celui qui enseigne ses enfants. Être un leader, c'est savoir accorder du temps de qualité à nos enfants. Quel est le dernier projet que vous avez fait avec chacun de vos enfants? Chose simple, aller à la pêche, réparer le vélo, bâtir quelque chose en le responsabilisant. Je me rappelle s'intéresser à sa passion. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, une chose qui, vous allez dire, c'est stupide, mais j'ai 65 ans et c'est encore clair dans mon esprit. On était assis sur le bord d'un trottoir, moi puis mon père, à Springfield, à Massachusetts. Et puis mon père me prête son couteau pour que je me coupe un morceau de cantaloupe. Et c'est clair dans mon esprit. C'est niaiseux, mais c'est clair dans mon esprit. Des choses simples, mais des choses qui m'ont marqué. J'aime les couteaux depuis ce temps-là. Pas pour me couper. J'aime aussi le cantaloupe. C'est jamais du temps perdu. Ça ne sera jamais du temps perdu. Ce sont des souvenirs pour vos enfants et des liens qui se tissent entre eux et vous. C'est ce qu'on appelle l'amour en action. Et rien, absolument rien, ne pourra remplacer ce temps. Ni les cadeaux, ni les frères, ni les sœurs, ni même la mère. Le temps particulier avec votre père, avec vos enfants, le père avec les enfants, c'est particulier, c'est spécial. C'est précieux que tous les biens matériels. Ce sont des souvenirs qui ne s'effacent qu'à la mort. Et c'est important. Parce que lorsque l'enfant passe des moments difficiles, il reste encore ces souvenirs-là dans sa tête. Être un leader ne veut pas dire seulement parler comme un leader. C'est aussi agir comme un leader. J'ai une citation qui m'est revenue à l'esprit qui dit « Je n'entends pas ce que tu dis parce que ce que tu fais parle trop fort. » Que nous le voulions ou non, ce que nous transmettons nos comportements à nos enfants. Le meilleur exemple, c'est Abraham. Abraham, dans Genèse, chapitre 12, verset 13, il dit « Je te prie que tu aies ma sœur, dis que tu aies ma sœur afin que je ne sois point traité. » Et il dit à sa femme, il dit, « Dis en Égypte que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité. » Et il est arrivé plein de complications. Mais il n'a pas compris la leçon. Il répète en Genèse 20 à la ville de Guérard, « Guérard, Abraham dira à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. » Bien, que ce soit Abraham qui le fasse, OK. Mais son fils Isaac, un peu plus loin, Abraham est mort maintenant, Isaac, il reste à Guérard et il fait la même chose. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait les autres. Nous répétons ce que nos pères ont fait. Et il y a eu quelque temps, j'étais avec ma sœur et j'ai dit quelque chose d'anodin. Et d'un coup, ma sœur me disait « Tu me fais tellement avancer à paix quand tu dis ça. » Nous répétons ce que nos pères ont été. Nous copions nos pères, que nous le voulions ou non. Et il y a même une parole d'un compositeur québécois que j'aime bien. Ce n'est pas l'entière vérité, mais c'est une partie de la vérité. Ces paroles disent « Puis les enfants ne sont pas vraiment, vraiment méchants. Ça peut mal faire mal de temps en temps. Ça peut mentir, ça peut cracher, ça peut voler. Dans le fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. » Et il y a une vérité dans cela. Nous apprenons, que nous le voulions ou non, nous apprenons, les gens vont nous imiter, nos enfants vont nous imiter. Ils suivent nos traces. Ils vont conserver certaines valeurs de leur jeunesse. Même si plus tard, ça se gâte, même si plus tard, ils remettent en question tout cela, nos enfants imitent nos gestes, inconsciemment. Pas qu'imiter nos gestes, ils imitent nos paroles. Ils imitent nos gestes. J'aime bien cette image d'un enfant qui met le soulier de son père, d'une fille qui met le soulier de sa mère. Quand mon père est décédé, j'ai hérité ses souliers. Et quand je les ai portés, j'ai eu comme un frisson. J'ai dit, je porte le soulier de mon père. Et nos enfants deviennent nous-mêmes. Ils apprennent ce que l'on apprend. Ils apprennent ce que nous faisons. Si nous leur apprenons à prier, ils vont continuer à prier. Ou du moins, s'ils arrêtent de prier, ça va rester dans leur esprit. La personnalité est teintée du père et de la mère. Le père transmet sa personnalité aux enfants. Notre exemple laisse sa marque, mais nos paroles aussi ont leur effet. Au verset 11, il nous dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le Père, selon Dieu, doit faire correspondre son influence à sa nature. Et votre nature, c'est d'être chrétien. » C'est-à-dire que les exhortations, les consolations, les conjurations doivent servir à une marche digne du Seigneur. Paul nous dit qu'être père demande qu'on se développe au niveau de l'exhortation, de la consolation et de la conjuration. On doit se développer. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. On doit chercher ces choses-là à travers la parole de Dieu. Pourvoir veut aussi dire cela. Le terme exhortant, exhorter quelqu'un, c'est appeler, faire un appel à appliquer les vérités bibliques à la vie chrétienne. Appeler à le livre des Proverbes, j'en fais mention. À plus de 20 reprises, l'exhortation jette un regard sur le futur. Enseigner la vie à nos enfants avec l'outil le plus exact, la Bible. Le père qui console, c'est celui qui encourage, plus au niveau de l'action. Celui qui console dans les temps de conflit, dans les temps de trouble. Ce que nos enfants vivent, nous devrions être en mesure de le prendre sur nos épaules, d'en faire un fardeau pour nous. La consolation, l'encouragement n'enlève pas le fardeau, mais il l'allège et il donne un répit. La consolation fait un pas dans le passé. Ce que tu as vécu, c'est entre les mains de Dieu. Conjurer, pourrait se traduire par témoigner sans relâche, avoir les bonnes paroles, partager les grâces de Dieu, le vécu que nous avons avec Dieu. La dernière fois que vous avez partagé les bienfaits de Dieu avec un de vos enfants. Témoignage, adapté à son niveau. Partager les bienfaits de Dieu. Partager ce que Dieu est, ce que Dieu fait pour vous. Déjà montrer à vos enfants comment Dieu est grand. Le prendre avec lui et dire, regarde comment Dieu est grand. Lui enseigner ces choses-là, c'est le rôle d'un père. Tout cela dans un seul but, que nos enfants aient une marche digne de Dieu, du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut dire quand il dit dans 1 Corinthiens 7 que les enfants de parents croyants sont saints parce qu'ils ont le privilège de vivre au milieu des grâces de Dieu. Ils ont le privilège d'avoir des parents qui connaissent Dieu et qui respectent Dieu. Et que par l'obéissance à la parole que nous emmenons à nos enfants, ils sont des moins privilégiés. Ils s'épargnent beaucoup de problèmes avec le monde, avec Satan, avec la chair. En conclusion, je ne crois pas qu'aujourd'hui je vous ai appris beaucoup de choses, beaucoup de vérités. On sait bien que le problème, ce n'est pas dans les choses que l'on sait, mais c'est surtout dans les choses que l'on applique. On peut être un héros pour nos enfants. Mais qu'est-ce que c'est un héros? On voit à la télé des Superman, des Iron Man, puis des toutes sortes de héros de ce genre-là. Mais c'est quoi un héros en réalité? Et j'ai une belle définition de M. Stanley dans une de ses prédications, ce qui dit « Un héros, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire et qui passe à l'action. » Tout simplement. Voilà un héros. Et on peut être des héros pour nos enfants. Certains sont super-héros, mais ils ne portent pas de cap. On les appelle papa. Comment je vais faire? Comment est-ce que je peux changer les choses? Vous savez, comme un enfant apprend du Père, l'enfant de Dieu apprend du Père éternel. Et je voulais vous laisser un cadeau. C'est rien qu'une feuille, ce n'est pas un gros cadeau. Mais ce qui est écrit dessus a beaucoup d'importance. J'aimerais à la sortie, lorsque vous allez sortir, vous allez avoir une feuille. Vous êtes probablement pas capable à lire, mais vous pouvez la prendre en arrière. Et c'est comme une checkline, comme une checklist. Okay? Il écoute bien quand je lui parle de mes préoccupations. Est-ce que je fais ça? Oui? Non? Est-ce que j'ai place à amélioration? Oui? Non? Un checklist. Et vous en avez 10 comme ça. C'est quelque chose qui nous aide à perfectionner. C'est quelque chose qui nous aide à avancer. Peu importe l'âge de vos enfants, hein? Peu importe l'âge de vos enfants. Mes filles étaient majeures. Puis je les appelais, je disais, aujourd'hui, on va prendre un café ensemble. Ouais, OK. Je restais encore à la même place, à Shawinigan. Puis j'allais prendre un café à Trois-Rivières. Je disais, ouais, mais il y a des bons cafés à Shawinigan. Ouais, pas bon, il n'est pas bon. En réalité, c'est pour passer plus de temps avec eux autres. Et juste le père et la fille, le père et le fils, personne d'autre, privilégiez ce moment-là. Cette feuille-là, vous pouvez regarder, vous pouvez relire les versets bibliques. Et j'espère que ça pourra améliorer la relation de père-fils, de père-fille, de père-enfant, peu importe l'âge. Seigneur, je te remercie. Je te rends gloire, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des pères, des mères. Tu nous as donné cette responsabilité-là. Permets, Seigneur, que l'on puisse s'acquitter de notre tâche convenablement. Seigneur, nous voulons faire nos efforts pour que nos enfants te suivent, que nos enfants se tournent vers toi. Dis-nous comment le faire. Seigneur, c'est une responsabilité énorme de faire cela. C'est presque inimaginable, mais par ta grâce, par ta présence, par ton influence dans ma vie, permet que je puisse faire les bonnes choses au bon moment avec mes enfants. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir placés comme ça, mais je te remercie surtout d'être pour moi, pour chacun de nous, un Père éternel, un Père qui dirige, un Père qui sait faire la bonne chose au bon temps. Merci, Seigneur, et que nos prières se continuent dans les jours qui vont suivre pour avoir des familles avec des pères selon Dieu, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.